CFM, le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Le MAG du pays Midi-Quercy, une émission soutenue par le programme européen Leader et réalisée à CFM Caylus. Bonjour, bonjour et merci d'être là dans ce MAG du pays Midi-Quercy aujourd'hui et dans le cadre de la chronique Les Circuits Courts. Bonjour, Marie Brandy, la chargée de mission Alimentation et Circuits Courts du PETR Midi-Quercy, nous emmènera à Parisau visiter la brasserie Baltringue. Mais avant ça, on parle du contrat de relance et de transition écologique du PETR du pays Midi-Quercy. Ce 17 décembre dernier a été signé en pays Midi-Quercy le CRTE, le contrat de relance et de transition écologique du pays Midi-Quercy. C'est un des 800 contrats qui a été signé en France. En pays Midi-Quercy, c'est le directeur du PETR qui nous en parle, Philippe Darbois. Bonjour.
Bonjour.
C'est donc principalement pour intégrer le volet de la transition écologique au contexte sociétal, numérique, économique du PETR du pays Midi-Quercy.
Oui, tout à fait. Donc, on est dans un contrat de confiance entre un territoire, donc là représenté par le PETR et les trois communautés de communes qui rassemblent ce territoire, avec l'État pour s'engager à des actions cohérentes avec la transition écologique.
Alors, votre projet de territoire comprend déjà largement ce volet appliqué à la culture, la qualité de vie, des activités économiques responsables ou même à la participation citoyenne. Vous n'en êtes pas au début de cette transition écologique?
Non, tout à fait. Hein, le pays Midi-Quercy, historiquement, depuis les années 2000, a beaucoup œuvré dans ce domaine. Au départ, on parlait plutôt de transition énergétique uniquement. On a notamment fait un plan climat dès les années 2009 et qui a permis notamment d'œuvrer dans la rénovation thermique de bâtiments. Là, on est sur une approche plus large de la transition, donc écologique, donc qui comprend bien sûr la transition énergétique, mais aussi le respect ou le développement de la biodiversité, l'adaptation aussi au changement climatique hein, avec les difficultés de plus en plus récurrentes de phénomènes de chaleur et donc du coup d'adapter peut-être aussi l'habitat, les espaces de vie à cette chaleur. Et donc de fait, voilà, on touche énormément de domaines qui vont toucher la vie quotidienne des habitants avec l'objectif vraiment d'essayer d'atténuer l'impact pour la planète, de l'ensemble de ces projets qui vont être mis en œuvre sur le territoire pendant les 5 ans à venir.
Alors, c'est un contrat financier. L'État s'engage à donner des subventions aux projets à but de transition écologique, donc sur les trois communautés de communes et menées par le PETR.
Voilà, en fait, le PETR, de par ses statuts, a vocation à porter des contrats supra-communautaires, donc à une échelle qui dépasse l'échelle des communautés communes, donc là, le pays de Midi-Quercy, et pour ainsi avoir des engagements un peu plus lisibles et durables des financeurs. Donc on a avec l'État ce contrat de relance et de transition écologique qui fait suite à un contrat de ruralité qui a été mené dans les années 2017-2020, et également un contrat de transition écologique déjà aussi qui avait été signé il y a 2 ans. Bon, tout ça peut paraître un peu confus. L'idée quand même de ce CRTE, c'est d'être le contrat unique avec l'État, intégrateur justement de tous les autres contrats ou les dispositifs que mène l'État sur les territoires. Donc ainsi va être intégré dans ce CRTE les problématiques aussi de dynamisation des bourgs centres, hein, donc à travers les petites villes de demain. On va y intégrer également les actions que l'on mènera dans le cadre du Pays d'Arrêt d'Histoire, qui était aussi financé par l'État, par le ministère de la Culture. Donc tout ça va permettre d'avoir une vision assez exhaustive hein, des dynamiques sur le territoire pendant les 5 ans à venir, en cohérence avec notre projet de territoire hein, que l'on a validé fin 2021 et qui définit un peu notre feuille de route justement pour œuvrer dans ce développement durable du territoire.
Un contrat qui passe par une enveloppe qui vous est donnée et que vous allez dispatcher en fonction des projets ou
Oui, ça serait bien, oui, je vous coupe, mais oui,
mais non.
C'est pas une enveloppe. Malheureusement, ce n'est pas une enveloppe. C'est un peu dommage, hein. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui est le regret par rapport à ce type de contrat, mais il y a quand même, si vous voulez, des enveloppes nationales qui sont prévues, des dotations de l'État, notamment une qui s'appelle la dotation pour l'investissement local, la ville, qui va être abondée fortement en 2022 et on pense les années suivantes, et qui va donc être prioritairement affecté à des projets qui seront inscrits dans les CRTE. Bon, donc notamment des projets d'investissement pour la rénovation thermique des bâtiments publics, pour la création de réseaux de chaleur ou de production d'énergie renouvelable, pour des projets d'aménagement de cadre de vie ou d'espace public, mais qui prendront en compte notamment bien l'adaptation au changement climatique, donc notamment tout ce qui est végétalisation des espaces publics, la désimperméabilisation des espaces publics, hein, donc de façon à atténuer le phénomène de chaleur. On pourra également proposer aussi des projets de création de logements dans les cœurs de bourgs ou d'installations d'activités de commerce de proximité, d'approvisionnement des cantines en produits locaux et donc de relocalisation de cantines dans les communes. Bon, je fais un peu une liste à la Prévert, mais c'est pour donner l'esprit. On est toujours dans cette volonté d'accompagner l'investissement qui est cohérent donc avec la transition écologique pour le territoire.
Des projets qui ne peuvent pas être portés par des particuliers.
Alors, on est quand même plutôt sur une entrée en effet collectivité. Mais il peut très bien y avoir quand même des projets collectifs, d'entreprises notamment. Il a été positionné des pistes de projets concernant l'économie sociale et solidaire, avec notamment une démarche que l'on est en cours d'élaboration. On en a déjà parlé dans d'autres émissions, qui est la démarche territoire zéro chômeur longue durée, où là, typiquement, on l'inscrit bien sûr dans notre contrat de relance et de transition écologique. Et l'idée, c'est de créer une entreprise d'emploi qui va employer des personnes en longue durée sur le territoire pour exercer des nouvelles activités qui ne sont pas prévues sur le territoire et donc concurrentielles, et notamment dans des domaines de l'environnement, de l'économie circulaire. Donc, du coup, à travers ces activités collectives d'entreprise, on peut également aussi bénéficier parfois de soutien de l'État, mais c'est déjà des soutiens plus ponctuels qu'il faut travailler directement avec les acteurs concernés.
En fait, ce contrat de relance et de transition écologique, donc de l'État, avec l'État, soutient des activités qui sont largement et depuis longtemps déjà exercé, soutenu par le PETR du pays Midi-Quartier. Vous nous parlez transition écologique, culture, activité économique, c'est des choses qui sont quand même largement déjà faites, hein, par le PETR.
Tout à fait, donc c'est vrai que ces thématiques que porte le pays depuis plusieurs années sur la transition énergétique écologique sont maintenant largement reprises par l'État. L'intérêt de cette reprise par l'État, c'est que déjà, ça va prioriser les financements sur ce type de projet et de fait, ainsi, encore plus inciter les élus du territoire, s'ils n'étaient pas encore convaincus de l'intérêt et de l'importance et l'urgence d'investir dans ces projets respectueux, tout simplement, de l'environnement, de l'impact pour la planète et qui améliorent fortement le bien-vivre sur le territoire.
Concrètement, c'est des projets qui sont imaginés par donc des particuliers, beaucoup moins, mais donc possiblement des entreprises, par les mairies, les communautés de communes et par le PETR, qui sont des projets qui sont soumis à l'État, et l'État décide si des subventions sont versées.
Voilà, en fait, il y a un travail de remonter des projets via des canaux plutôt administratifs, c'est vrai. Ensuite, les projets qui remontent, certains seront retenus pour être financés dans le cadre du CRTE, mais si ça n'est pas le cas, ils pourront peut-être bénéficier d'autres aides certainement inférieures, mais par d'autres canaux. Le CRTE n'a pas vocation à financer tous les projets d'investissement, notamment publics, qui vont se dérouler dans les 5 ans à venir sur le territoire. Le CRTE va permettre de mettre en lumière un certain nombre de projets qui sont plus exemplaires ou du moins plus cohérents avec le projet territoire et donc la transition écologique que l'on souhaite mener sur le territoire.
Vous avez des nouvelles envies, des nouvelles idées, des exemples de projets qui pourront découler de la signature de ce contrat de relance et de transition écologique ?
Mais c'est vrai que le domaine de l'économie circulaire, qui est un domaine qu'on a peu encore investi sur le territoire, même s'il y a déjà des acteurs, notamment associatifs, qui œuvrent, je pense à l'association IDÉE, de Bria Cossa, mais qui a bien d'autres antennes, et qui fait des recycleries. Alors on peut imaginer que ce type de projet pourrait être encore plus développé en lien notamment avec les syndicats, les Comcom qui portent la compétence ordures ménagères et les tri sélectifs pour essayer d'encore plus valoriser tous ces déchets. Également aussi mettre en place des systèmes de compostage collectif pour diminuer justement les déchets à traiter. Tout ce domaine d'économie circulaire au sens large, parce qu'il y a aussi dedans les circuits courts, et ça on le faisait déjà pas mal au niveau alimentaire, on peut penser que ça va connaître un développement assez fort. Un autre domaine aussi qui est très accompagné, même s'il est déjà engagé chez nous, c'est vraiment tout ce qui concerne la mobilité dite douce ou alternative sur le territoire. On sait très bien que la voiture est quand même le principal mode de déplacement, mais on espère que ce soutien à des investissements en termes de mobilité douce va inciter encore plus les élus à prendre ça à bras-le-corps, et parce qu'il y a une demande, on le sent de plus en plus, des habitants pour avoir une offre de mobilité alternative, moins polluante.
Si des citoyens qui nous entendent ont une idée qui pourrait peut-être rentrer dans le cadre du financement via ce CRTE, est-ce que c'est possible de vous contacter pour vous le proposer ?
Tout à fait, oui, on peut tout à fait nous appeler au pays. On a aussi une structure qui s'appelle le Conseil Développement, on l'a évoqué déjà précédemment dans notre réunion et d'autres émissions, et qui peut aussi objet des accueils de nouvelles personnes, d'ailleurs, motivées pour participer aux réflexions, mais aussi peuvent très bien accueillir ponctuellement des idées et des échanges avec des habitants. Donc ça, c'est tout à fait possible, et donc, n'hésitez pas à nous envoyer le mieux un mail au mail général du pays, paysmidi-quercy@info82.com. Et ainsi, on vous donnera une suite à vos propositions.
C'est sur 5 ans, ce contrat de relance et de transition écologique sur le PETR du pays Midi-Quercy. Sont concernées les communautés de communes, donc les élus, les municipalités, les entreprises, les associations, les citoyens, un peu tout le monde. Donc, en faveur de cette transition écologique en particulier. Philippe Darbois, je rappelle que vous êtes le directeur du PETR du pays Midi-Quercy. Ben, un grand merci.
Bien, merci à CFM et à bientôt.
CFM, c'est le MAG, la vie du pays Midi-Quercy.
Deuxième partie de ce MAG aujourd'hui en compagnie de Marie Brandy. Elle est chargée de mission alimentation et circuits courts au sein du PETR. Et dans sa chronique Les circuits courts, bonjour, elle nous emmène aujourd'hui à Parisot visiter la brasserie Baltringue.
Les circuits courts, bonjour. Aujourd'hui, je suis allée voir la brasserie Le Baltringue à Parisot. Alors, en fait, elle est située entre Parisot et Cornusson, Verfeil, là, sur la route principale. Bonjour.
Bonjour. Moi, je m'appelle Julien Mignot. Je suis un des fondateurs de la brasserie Baltringue à Parisot.
Vous êtes brasseur, Julien ?
Je suis officiellement brasseur, oui. Mais j'ai eu plusieurs métiers avant. Donc, ma première passion était le bois, mais j'ai fait quelques créations en bois. Et après, pendant de longues années, j'ai travaillé dans le spectacle, le théâtre de rue et le cirque aussi moderne en tant que technicien. D'où le nom de la brasserie qui s'appelle Baltringue, okay. Qui est en fait à l'origine les monteurs de chapiteaux, qui est devenu ensuite une insulte un peu péjorative du racisme donc envers les forains. Donc c'était des gens qu'on ne peut pas avoir confiance. Et voilà, et ça s'est féminisé d'ailleurs parce que c'était un Baltringue. peu plus souvent, c'était des hommes qui montaient les chapiteaux et c'est devenu une baltringue.
Ok. Donc vous êtes un monteur de chapiteaux de pierre.
Alors, un monteur de chapiteaux de bière, on peut dire ça, oui.
Et alors là, ça fait combien de temps alors qu'elle est montée la brasserie ?
Ça fait 2 ans, à peu près, qu'elle est montée. Ça fait un peu moins de 2 ans qu'on a commencé à commercialiser, mais l'entreprise a été montée il y a 2 ans à peu près, oui.
Alors c'est quoi une petite capacité de production ? Juste à titre indicatif, par curiosité, combien de litres de bière vous faites, je sais pas, moi, par semaine, par mois ?
Actuellement, on fait à peu près 250 litres par semaine.
Ok.
Et on aimerait doubler cette capacité, voilà. Parce qu'on a de la demande et voilà, que ça nous permettrait aussi de pouvoir en vivre correctement. Pour le moment, c'est encore difficile d'en vivre, donc voilà, ça...
Oui. S'il y a de la demande, c'est qu'elle est bonne. Hein. Et alors du coup, il y a quoi justement dans cette bière ? Comment on fait la bière ? Vous y mettez quoi ?
Alors, pour avoir une appellation bière, il faut forcément du malt et du houblon. Ça, c'est les deux ingrédients obligés pour que ce soit de la bière. Il y a différentes maltes de toutes les couleurs. C'est une torréfaction de l'orge ou d'une céréale. Donc il y a des maltes plus colorées que d'autres qui donnent des arômes plus différents. Le houblon, c'est pareil. Il y a tellement de variétés différentes. Il y en a qui ont seulement aromatiques, seulement amérisants, les deux. Des goûts de fruits différents. Il y a des arômes vraiment multiples et variés. Donc ça, c'est vraiment une histoire de cuisine. J'ai une histoire de goût. En faisant des essais, on cherche ce qui nous plaît. Et voilà. Puis on fait aussi tester autour pour voir si ça plaît. On peut vraiment mettre des fruits aussi. Et voilà, des plantes aromatiques. Voilà. Il y a vraiment un panel large à faire. Et voilà. Suffit de tester, en fait, comme dans la cuisine.
C'est en fonction des saisons alors aussi ce que vous mettez dedans ?
Aussi, on a une bière à la pomme avec un ami agriculteur qui fait du jus de pomme, donc on va le récupérer, qui sort de la presse, et effectivement c'est des bières de saison, il y a des bières avec des fruits de saison, donc oui, il y a matière à faire quand même.
Ok, et alors du coup combien de temps ça prend à faire la bière ?
Pour faire une bière, ça prend 6 heures à peu près, mais après il y a toute la fermentation qui est beaucoup plus longue, qui varie entre 15 et un mois, ou des maturations beaucoup plus longues. Donc créer le jus, le mou, est assez rapide. Bon, ça prend une demi-journée, mais après oui, il y a de la maturation. Pour arriver à un résultat qu'on souhaite.
Et elle est bio, c'est ça, cette bière ?
Oui.
Tous les ingrédients.
Tous les ingrédients sont bio, oui. Oui, c'était une volonté, parce que nous, c'est notre mode de vie. Après, c'était aussi pour proposer une bière 100% bio. Et ce qu'on souhaitait aussi, c'était qu'elle soit accessible. On ne souhaite pas la rendre que ce soit juste une élite qui puisse boire une bière bio. Souvent ça peut être un peu cher, on dit que le bio c'est cher. Nous, on essaie de tirer les prix le plus bas, donc de marger le moins, pour pouvoir rendre un produit accessible à tout le monde en bio. Voilà. Et des produits 100% bio. Et aussi européen. Donc on utilise du sucre bio européen, okay. Du houblon uniquement européen, pour éviter, voilà, de traverser les océans pour pouvoir récupérer un produit, même qu'il soit bio. Bon, voilà, il y a du sucre de canne, mais nous on utilise du sucre de betterave bio, produit en France et en Allemagne. Voilà.
Au moins, si les transports sont coupés, un jour, on pourra continuer à boire de la bière.
Ouais, ça serait bien, ouais.
Le prix du gazole, on ne sait jamais.
Oui.
Et il y a des produits locaux un peu dedans, peut-être les pommes, là
Les pommes, oui. Les pommes, alors on essaye de trouver des producteurs locaux qui puissent nous fournir. Donc, ces pommes-là, après, on est sur d'autres recherches, on cherche d'autres produits qui nous intéressent. Voilà, on n'a pas encore de. On va pas tout dévoiler, mais on cherche encore des choses. Ouais.
Des petites recettes de derrière les fagots.
Oui, bah, je pense qu'il y a des plantes qui sont intéressantes, ou des plantes ou des fruits qui sont intéressants à travailler, à chercher des arômes. Je pense que ouais, ça peut être sympa.
Et alors, au final, ça fait à peu près, vous avez combien de variétés de bières, je sais pas comment on dit, sortes, variétés
Oui, des variétés. Actuellement, on en a 6. Il y a une 7e qui sort d'ici la fin du mois. Mmh. Et on en a 2 autres qui sont en cours de test. Voilà.
Blanche, brune, blonde
Alors, celle qui va sortir à la fin du mois, c'est une ambrée. Et après, un peu plus houblonné, mais c'est souvent des blondes qu'on a. Mais voilà, la prochaine, ouais, c'est une un peu plus houblonnée, parce qu'on n'est pas trop sur des bières amères dans nos gammes, par goût, parce qu'on n'aime pas trop les bières trop amères. On prend plaisir à en goûter, mais à produire, c'est pas nous ce qui nous plaît. Mais on va sur une limite qui sont encore raisonnables pour nous. Donc on commence à en avoir des un peu plus amères que celles qu'on a dans notre catalogue actuellement. Donc voilà, on essaie de chercher dans les goûts et voilà.
Et alors, on les trouve où, ces bières?
On les trouve bien sûr à la brasserie.
Directement, on peut venir n'importe
ouais,
quand.
On peut venir, on peut passer un petit coup de téléphone. On a un site internet où même on peut en réserver directement en ligne et puis venir les chercher quand on a envie, bien sûr, en disant quel jour on vient. Mais
le site internet, c'est
brasseriebaltringue.fr. Voilà. Ouais, tout attaché, brasseriebaltringue.fr. Oui.
Donc, sur Facebook, hein, je crois aussi, on va pouvoir retrouver le lien.
Facebook, la brasserie aussi, sur Instagram également.
Oui, et vous me faites voir vite fait, là.
Sûr, ouais.
Allez, et les gens, quand ils viennent, ils peuvent voir aussi.
Oui, si on n'est pas en train de brasser, bien sûr, ou d'embouteiller, mais bien sûr, on fait visiter avec plaisir.
Ok. Alors, c'est un petit bâtiment avec plein de bières. En bois, très joli. Et puis là, on arrive au fond, et c'est là qu'il y a les cuves. Trois cuves,
oui. Donc il y a une cuve d'empattage, donc c'est là où on va faire infuser le malt à certaines températures, selon le sucre fermentable qu'on veut récolter. Une fois qu'il a été infusé, on récupère juste le mou. Donc l'idée, c'est de séparer la graine et la coque du malt et récupérer juste le jus sucré qu'on transfère dans la cuve d'ébullition. La troisième cuve est une cuve d'eau chaude. Donc c'est pour rincer le maximum la drèche, donc la céréale infusée. Et une fois qu'on a filtré, parce que ça sert d'autofiltre, ça s'autofiltre la céréale. On la fait cuire, on la fait chauffer, donc on la porte à ébullition. Et c'est à ce moment-là qu'on introduit tout ce qui est houblon ou aromate, ou ça peut être des écorces d'orange, des graines, des épices, en fait.
C'est là le seuil de l'expérience.
C'est là, c'est là où on dose et on suit notre recette à doser le houblon. Donc il y a différents moments où on peut mettre le houblon. Plus on le met tôt, plus ça va être un peu amer. Et moins on le laisse longtemps, plus on aura des arômes. Ouais. Et une fois que ça a été, donc on a fini cette cuisson et on éteint. Et l'idée, c'est de refroidir le plus vite possible ce mou pour éviter la contamination. Donc on va le refroidir et le mettre en fût de fermentation où on va pouvoir mettre les levures et là laisser travailler la levure à fermenter la bière. Et voilà.
Bon, et puis bientôt sur le petit guide qui devrait être réédité en 2022 sur les produits du pays Midi-Quercy. Et alors, sinon, il y a un truc très facile, si vous mettez sur le GPS Brasserie Baltringue, et voilà, le GPS vous amène, c'est nickel. Et vous êtes ouvert à peu près tout le temps?
Tous les jours, sauf le mercredi et le dimanche. Le samedi, c'est plutôt sur rendez-vous, on peut se rendre dispo. Et c'est en fin de journée, donc quand les gens sont plus libres, c'est souvent de... On est ouvert de 16h à 20h.
Oui, c'est parfait.
Donc voilà, ça laisse... on peut trouver notre numéro, on peut nous envoyer un petit texto, un petit mail, un signe de fumée, pour nous dire on va passer, il n'y a aucun souci, on répondra. Et voilà, si avis contraire, on dira qu'on reporte le rendez-vous. Mais voilà, on est là quand même. On habite sur le lieu, donc c'est aussi un avantage de pouvoir être disponible assez souvent.
Voilà, c'est facile, si vous passez par là, hop, un petit coup de frein à main, et puis vous aurez une bière. Merci beaucoup, Julien.
Merci à vous.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Les circuits courts, bonjour. C'était un reportage de Marie Brandy à la brasserie Baltringue. Marie Brandy, elle est chargée de mission alimentation circuit court au sein du PETR du pays Midi-Quercy. Le MAG du pays Midi-Quercy, c'est tous les lundis à midi, rediffusion à 17h et le samedi à 18h. Et en podcast sur cfmradio.fr.
CFM, vos infos.
Midi et demi, 5 minutes avec François Germain. Bonjour François.
Bonjour à tous. La décrue est en marche. Les chiffres de l'épidémie de coronavirus semblent enfin montrer des signes d'essoufflement. Alors, est-ce le début de la fin ? Élément de réponse dès le début de ce journal. Une crise sanitaire qui a eu des conséquences sur le portefeuille de quasiment tout le monde, sauf des riches. La fortune des 10 plus gros milliardaires du monde a doublé depuis le début de la pandémie. On vous explique pourquoi. Et puis, nous vivons aujourd'hui le jour le plus déprimant de l'année, le Blue Monday, une théorie pas forcément vraie, vous le verrez. Quand la cinquième vague prendra-t-elle fin ? Démarrée à l'automne avec la propagation du variant Delta, amplifiée dès décembre avec l'arrivée d'Omicron, cette vague n'en finit plus de grimper. Oui, mais voilà, la tendance commence à s'inverser. Enfin, depuis quelques jours, le nombre d'hospitalisations en soins critiques diminue. Les taux d'incidence commencent à reculer en Île-de-France, en Corse et à Mayotte. Alors, assiste-t-on aujourd'hui à la fin de cette épidémie ? Élément de réponse avec Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français.
Soyons optimistes, c'est un peu l'impression que nous avons tous, puisque en taux de positivité, en moyenne sur 7 jours, nous étions arrivés à 324 000 par jour, ce qui était absolument considérable. La dernière moyenne sur les 7 derniers jours, elle est à 278 000, ce qui est quand même un peu moins. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution sur l'hospitalisation. La réanimation diminue, moins 6% en admission, et c'est en règle général des hospitalisations de beaucoup plus courte durée. Tout ça nous amène à être un peu optimistes puisque nous sommes à 92% de variants Omicron actuellement.
En attendant une accalmie, le projet de loi qui instaure le pass vaccinal a été définitivement voté par les députés hier soir à l'Assemblée. Les plus de 16 ans devront justifier d'un schéma vaccinal complet pour accéder à la plupart des lieux publics. La mesure doit entrer en vigueur en fin de semaine après examen du Conseil constitutionnel qui a été saisi par de nombreux députés de l'opposition. Pfizer, de son côté, va investir 520 millions d'euros en France dans les 5 prochaines années. Le laboratoire américain devrait notamment confier une partie de la production de sa pilule anti-Covid au sous-traitant pharmaceutique français Novacep. Un site de production sera installé dans les Pyrénées-Atlantiques. Les inégalités, elles, continuent de se creuser dans le monde. C'est ce que nous apprend Oxfam dans son dernier rapport. Les grands gagnants, les milliardaires, dont les fortunes sont en excellente santé depuis le début de la pandémie, Florian Laffont.
Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures et les 10 personnalités les plus riches de la planète, comme Elon Musk et Bernard Arnault, ont vu leur fortune doubler depuis le début de la crise sanitaire, grâce notamment à l'argent public versé par les gouvernements et les banques centrales. A contrario, les revenus de 99% de l'humanité ont fondu. Alors, que faire de ce décalage vertigineux ? Oxfam recommande une taxe exceptionnelle de 99% sur les revenus de la pandémie provenant des 10 hommes les plus riches. De l'argent qui permettrait de produire assez de vaccins pour le monde et de fournir une protection médicale universelle.
Dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement dans l'affaire Delphine Jubilard. Des fouilles sont en cours depuis ce matin autour d'une ferme située à proximité du domicile de l'infirmière, disparue depuis plus d'un an à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. Un lieu évoqué par un ancien codétenu du mari et principal suspect Cédric Jubilard. Les recherches devraient durer plusieurs jours. Une manière de se rassurer si vous vous sentez déprimé aujourd'hui. Vous n'êtes sans doute pas seul, puisqu'aujourd'hui serait le jour le plus triste de l'année. C'est en tout cas la théorie du psychologue Cliff Arnold qui a développé le concept du Blue Monday, un phénomène de plus en plus connu, mais qui serait en fait une supercherie, Jean-Damien.
Et oui, il s'agirait en réalité d'une vaste opération marketing.